Alors, en attendant que j'installe tout ça, je vous invite à ouvrir votre Bible en Exode chapitre 17. Et je vais... Exode chapitre 17, et on va lire les versets 8 à 16. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de lire cet épisode en fait de Israël, de la vie d'Israël. Très intéressant et très instructif pour nous. Exode chapitre 17, versets 8 à 16. Écrit, Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom « L'Éternel, ma bannière ». Il dit « Parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. » Est-ce que vous avez des combats dans votre vie? Tout va toujours bien, la belle vie. Hein, vous n'êtes pas comme moi, des fois j'ai des souffrances, mais bon, tout va bien. On a tous des combats dans notre vie, et des fois des sérieux même à mener, hein, je pense à la maladie ou d'autres. Et en même temps, dans ces combats, on a de nombreux ennemis également, parce que c'est l'ennemi qui vient nous attaquer. La question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on va lutter quand on est attaqué? Il y a mille et une manières humaines, je dirais, de lutter, parce qu'on va des fois lutter avec nos forces. Et bien souvent, on commence par là, avant de lutter peut-être avec Dieu. Parfois, on va lutter tout seul, plutôt que de s'entourer dans le besoin. Et nous avons aussi dans le combat l'idée qu'à la fois il est terrestre, il y a des choses que nous voyons, que nous pouvons toucher, mais il faut aussi comprendre qu'il est parfois aussi spirituel, dans un monde que nous ne voyons pas. J'aimerais justement ce matin qu'à travers ce texte, qui nous apprend beaucoup de choses dans le combat, justement, à apprendre mais à combattre avec la stratégie de Dieu, et pas avec notre propre stratégie. Voir trois choses hein, qui sont marquées. D'abord, comprendre que les attaques, c'est une réalité, comme Israël l'a vécu. On verra une deuxième chose, c'est comment on va livrer bataille. Ne sortez pas vos revolvers et vos épées, c'est pas ça l'idée. Et puis troisième chose, savoir aussi être reconnaissant après la bataille. Et ça, on l'oublie aussi souvent. Alors les attaques, c'est une réalité. Et pour se replacer dans le contexte d'Israël, ils venaient de sortir de l'Égypte. Dieu avait fait des grands miracles pour sortir ce peuple de l'Égypte. Et à peine sorti, qu'est-ce que fait le peuple? Ils adorent Dieu, ils le remercient, ils murmurent, ils râlent. Hein. Ils font des reproches à Moïse et à tous ceux qui les conduisent. Et ça murmure. Qu'est-ce que c'était bien l'esclavage, mais on avait du miel à manger au moins. Je ne sais pas si on aurait fait pareil, mais en tout cas, c'est un peu bizarre. Et en même temps, à cause de cela, ils cherchaient querelle à Moïse. Et le peuple, il est dit dans Exode, hein, tentait Dieu d'une certaine manière. Parce que quand ils doutaient de Dieu, ils tentaient Dieu aussi. Et là, ça devient dangereux quand on essaye de tenter Dieu. Et pourtant, Dieu leur avait offert à boire, offert à manger, les conduisait vers la terre promise, une miséricorde infinie pour un peuple qui n'avait absolument aucune reconnaissance. Et bien souvent, on est comme ça. Dieu fait des choses extraordinaires dans notre vie, ou moins extraordinaires, et souvent, on oublie un peu de le remercier et d'être reconnaissant. Mais on va faire une remarque, c'est que l'état d'Israël, à ce moment-là, était faible spirituellement, hein, puisqu'il râlait après Dieu, etc. Et c'est à ce moment-là qu'Amalek va attaquer. Ça, c'est intéressant. Quand on est faible spirituellement, on devient une proie facile pour le diable et peut-être pour d'autres domaines d'attaque dans notre vie. Ça veut dire ne pas être faible, oui, vous avez compris. Mais bon, ça nous arrive d'être faible, mais on peut être faible parce qu'on le veut bien, parce qu'on se laisse aller. Ou après, bon, il y a des domaines comme la maladie, d'autres choses qui nous mettent à devenir faibles, on est bien d'accord. Mais bien souvent, c'est notre laxisme spirituel qui nous rend faibles. Pareillement à ce peuple qui, plutôt que remercier Dieu, était en train de râler après Dieu. Forcément, ça l'a affaibli et c'est là qu'Amalek va attaquer. Et Amalek est lâche dans cette attaque, hein, parce qu'il va attaquer par derrière. Il n'est pas frontal, hein, il va aller vers derrière pour déstabiliser le peuple. fait ça à Réphidim, c'est dans le désert du Sinaï, c'est proche du mont Horeb, pour ceux qui sont ont ça un peu en tête. Il va attaquer ceux qui traînaient, ceux qui étaient derrière. Quand on est derrière, ça veut dire qu'on est fatigué, qu'on est faible, qu'on est les derniers. Hein, c'est comme dans les troupeaux, généralement, le lion va attaquer ceux qui sont derrière. Il ne va pas attaquer la gazelle la plus vive parce qu'il ne la chopera pas. Mais il va attaquer ceux qui sont derrière. C'est plus facile pour lui d'attaquer les faibles, les lâches. Mais le texte dit quand même aussi que le peuple et les chefs étaient fatigués. Donc Moïse et d'autres, il y avait une fatigue générale, je pense, hein, puisqu'il dit « pendant que tu étais là, et épuisé toi-même ». Donc on peut se dire qu'il n'a pas attaqué seulement les faibles uniquement, mais il a attaqué tout le peuple. Mais il a commencé par les faibles. Et des leçons pour nous, je pense, hein. Comme Amalek, le diable essaie d'attaquer son église, attaquer ma personne, attaquer ma famille, attaquer dans tous les domaines. S'il peut nous attaquer et nous faire tomber, il le fera. Il aime ça. C'est son boulot, on va dire. C'est son job. Et donc ça démontre que moi-même, j'ai un combat spirituel. Il est personnel, mais je pense qu'il peut aussi être communautaire dans l'église. Et ce combat, il faut que j'en ai conscience. Alors, pas être paranoïaque en se disant où est le diable, qu'est-ce qu'il va faire, etc. C'est pas ça l'idée. Mais quand même en avoir conscience à un moment pour me préparer. Le diable attaque ceux qui sont faibles et épuisés spirituellement, ceux qui traînent dans leur vie, ceux qui murmurent, ceux qui sont jamais contents de ce que Dieu leur donne. Et on est comme ça des fois. Ça nous arrive, hélas. Et c'est là où le diable se dit, bah, tiens, celui-là, c'est une proie facile, et ben, je vais le choper. Je vais le choper. Et Satan attaque aussi après des victoires. Parce que souvent, quand on a une victoire avec le Seigneur, on est plein de joie. Hein. Si vous êtes guéri, qu'est-ce qui se passe? Vous n'allez pas pleurer. Vous êtes plein de joie. Et puis, finalement, avec la joie, on oublie d'être vigilant. Dans l'euphorie de la joie, souvent, on oublie d'être vigilant. Et là aussi, Israël avait une grande victoire. Sortie de l'Égypte, c'est quand même pas rien. Il y a des miracles extraordinaires qui ont été faits par Dieu. Mais ils n'ont pas été vigilants, je pense, aussi à ce moment-là. Et Amalek attaque, le diable attaque ceux qui traînent, ceux qui ne sont pas vigilants. Alors, qui est cet Amalek? Un peu juste pour le présenter, c'est un descendant d'Ésaü. Hein, et ça, il désignait l'ensemble des Amalécites, un peuple qui était nomade et qui était à Kadesh Barnéa, une région en Israël. C'était des pillards et ils cherchaient en fait à déloger les Israélites et à défendre tout simplement leur territoire. Donc, ils étaient souvent en guerre. Dans la Bible, on pourrait dire que Amalek symbolise la chair, hein, notre chair. Alors, si on essaie de voir dans cette marche d'Israël en sortant de l'Égypte, une espèce de parabole vers la terre promise, on pourrait dire par exemple que l'Égypte c'était le monde, et ce peuple qui sort du monde, que Pharaon c'était Satan quelque part, hein, ce qui gère le monde, et que Amalek quelque part est la chair qui vient attaquer tout simplement le peuple. C'est un peu cette nature de l'homme que nous avons tous en nous, cette chair qui est là, qui est bien souvent méchante, qui est corrompue à cause de notre péché, et qui essaie de toujours nous combattre. Ce serait toujours un combat avec cette chair dans votre vie. Et on pourrait faire une comparaison aussi entre Amalek, cette chair, et ce que Dieu veut produire dans la vie du peuple, enfin de ceux qui sont nés de nouveau. Hein. Par exemple, on voit dans Galates 5, 16 à 17, on est en train d'étudier ça le vendredi soir, le fruit de l'esprit, mais on voit juste un peu avant qu'il y a un combat entre cette chair et le Saint-Esprit qui veut agir dans notre vie. Et qu'est-ce qu'il veut faire, le Saint-Esprit ?
Nous sanctifier,
donc nous transformer. Retirer cette chair qui est là facilement dans notre vie, et c'est facile. Dès que Dieu veut nous changer, vous dites « oui ». Moi, je dis « non », bien souvent, parce que j'aime comme je suis, j'aime mon passé, et là, je suis pasteur, mais je suis réaliste aussi. Il y a des choses que j'aime, et je n'ai pas envie de les laisser encore à Dieu. C'est la chair qui est là. Et il faut bien souvent que Dieu me combatte pour que j'accepte enfin de fléchir le genou. Mais il y aura toujours ce combat entre la chair et ce que Dieu veut tout simplement produire dans ma vie. Dieu a fait la guerre à Amalek. Hein, il le fera plus tard, hein, on voit ça à la fin. Il fait la guerre à la chair aussi de génération en génération. Et pendant qu'il fait la guerre, on pourrait dire à la chair, nous, il nous transforme. Hein, il ne fait pas la guerre directement à la chair, mais il veut nous transformer dans notre vie. Et ce qui est intéressant de voir dans l'avenir, c'est que aujourd'hui, peut-être la chair nous pèse, elle nous embête, on est d'accord, elle sera là jusqu'à la fin, de moins en moins, je l'espère, mais elle sera là. Mais quand nous serons auprès du Seigneur, la chair n'existera plus, on sera complètement transformé. Et là, quand Dieu vous dira de faire quelque chose, vous direz, oui, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire avec la joie, avec le bonheur, mais on n'aura plus besoin d'être transformé, puisqu'on sera devenu parfait. Vous imaginez parfait? Vous êtes déjà parfait, non? Non? Ah bon? Je ne suis pas le seul, alors ça va. ça va nous donner le vertige quand même de dire qu'on ne péchera plus, qu'on ne désobéira plus à Dieu, qu'on fera plus de mal, qu'on ne se fera plus de mal. C'est quelque chose d'extraordinaire, hein. Impensable peut-être humainement, mais c'est quelque chose que Dieu va faire dans notre vie. En attendant, cette chair est là. Et puis la Bible nous dit aussi qu'il y a deux moyens pour lutter contre cette chair. Ce n'est pas par mes forces, ce n'est pas par mon envie. C'est en lisant la Bible, en lisant la parole de Dieu. D'abord parce que quand je lis la parole de Dieu, je vais savoir qu'est-ce que la chair. Parce que des fois, on ne sait pas forcément ce que c'est. Et une fois que je sais ce qu'est la chair, ben, la deuxième arme, c'est la prière. C'est de demander à Dieu de m'aider à lutter contre ce qui m'embête dans ma vie et à faire disparaître cela de moi. Est-ce que ça marche ? Ouais, ça peut aller vite dans certains domaines, ça sera plus long dans d'autres domaines, mais au fond, finalement, le Seigneur exauce ma prière, à condition évidemment que je le laisse faire dans ma vie. Quand on s'intéresse aux combattants, parce que là on a vu le grand ennemi, maintenant du côté d'Israël, on voit qu'il y a Josué, c'est la première fois qu'il est mentionné dans l'Exode, hein, qui est le chef de la tribu d'Éphraïm. On voit aussi Moïse, alors Moïse, le pauvre Moïse, 40 ans en Égypte d'abord comme prince, hein, 40 ans comme berger. C'est pas rien d'être berger, il a dû apprendre énormément de choses et beaucoup d'humilité, je pense. C'est là où Dieu a dû le transformer totalement dans sa personnalité, sanctification. Hein. Et puis 40 ans ensuite à conduire un peuple facile à conduire, sympathique. Je me souviens quand j'étais à l'Institut biblique, mon prof disait, il s'arrêtait de temps en temps en parlant de Moïse, il disait « le pauvre, il a souffert ce pauvre Moïse hein. ». Il a fait sortir ce peuple, il lui a donné une terre, enfin, il marchait vers une terre promise et tout le temps, non, on ne veut pas, on ne veut pas, on ne veut pas. Je ne sais pas si j'aurais tenu à sa place. Mais il a été formé pour ça, 40 ans avant, 80 ans même, je dirais, avant. Dieu l'avait formé pour pouvoir lui donner la force pour aller jusqu'au bout. Puis il y a Aaron, le frère de Moïse, âgé de 3 ans de plus, qui est descendant de Lévi, et puis Hur, qui était le mari de Marie, sans faire de jeu de mots, hein, la sœur de Moïse, alors c'est une tradition, on n'est pas tout à fait sûr. Ce Hur et Aaron seront donc chargés, dans l'Exode, de surveiller le camp quand Moïse, lui, allait de temps en temps sur le mont Sinaï, hein, pour aller trouver les tables de la loi et d'autres choses. La leçon pour nous dans cette première partie, par rapport à ces attaques, c'est qu'on a beaucoup d'ennemis, plus qu'on croit. Le premier et le pire, c'est qui ? C'est qui ? C'est moi. Souvent, on croit que c'est le diable. Le diable ne peut rien faire si vous ne l'autorisez pas à faire quelque chose dans votre vie. Et la Bible nous dit que la convoitise commence par moi-même. Après, si j'autorise cette convoitise dans ma vie, forcément, le diable il dit, on va en profiter, hein, on va rajouter un peu plus. Mais le plus grand ennemi, c'est moi-même, mon péché. Après, évidemment, il y a le diable qui est là, qui veut nous faire tomber. Il y a le monde aussi qui est autour de nous et qui a sa pression d'une certaine manière, son influence. Il y a la fatigue des fois. Hein, quand on est crevé, mais crevé quand on rentre le vendredi soir après une semaine de travail, on n'a pas envie de lutter, hein, franchement, prier, bouf, hein, on est humain, je sais ce que c'est. Mais on se laisse des fois aller à cette fatigue, à cette lassitude. Il y a des fois le chômage, la maladie, ça c'est aussi des ennemis qui parfois ben, nous font tomber, nous plier les genoux, hein, tout simplement. Et on l'a vu, les attaques se produisent quand nous sommes fatigués. Pas que physiquement, je parle. Hein. On peut être fort spirituellement et fatigué physiquement. Mais quand on est fatigué spirituellement, quand on ne prend pas le temps d'avoir une relation avec Dieu régulière, là, on commence à se fatiguer tout doucement, tout doucement. On l'a dit aussi, après une victoire, on peut devenir fragile parce qu'on est tellement focalisé sur la joie de la victoire que finalement, on oublie d'être vigilant et de faire attention à ce qui peut arriver dans notre vie. 1 Pierre 5, 8 nous dit que le diable rôde cherchant qui il va dévorer. Vous avez déjà vu un lion ? Vous avez déjà fait mordre par un lion ? Pas moi encore, mais j'aimerais pas que ça m'arrive. Hein. Mais ça, c'est le boulot du diable. Et croyez pas qu'il va se dire, c'est le week-end aujourd'hui, je vais arrêter. Il fait pas 35 heures, lui. Il est à temps plein, 24 sur 24. Et il demande pas de RTT. Et ça veut dire que, sans être paranoïaque, ça veut dire que je dois être vigilant et que ma relation avec Dieu doit, comment dire, être mature régulièrement. Et pas faire un week-end. On n'est pas chrétien le dimanche, on est chrétien toute la semaine. On doit vivre cette vie chrétienne tout le temps, constamment, avec ses hauts, avec ses bas. Hein. Il y a des moments où on est à fond, il y a des moments où on se laisse un petit peu aller. Mais je dois quand même avoir conscience que je dois lutter contre quelqu'un. Alors, la question qu'on peut se poser pour la deuxième partie, hein, c'est comment on va lutter dans le combat ? Est-ce que je vais lutter de manière charnelle, c'est-à-dire je vais compter sur mes forces, moi-même ? On le fait souvent, je vois des têtes qui disent non, mais on le fait souvent. Hein. Ou est-ce que je dois compter sur Dieu? Est-ce que je dois lutter seul, on l'a dit? Est-ce que je dois lutter avec plusieurs? La vraie question qu'il faut se poser avant, c'est que si je sais que je vais me faire attaquer, et ça va nous arriver, enfin je ne vous le souhaite pas, hein, mais je sais que ça va nous arriver d'une manière ou d'une autre, pourquoi on ne se prépare pas avant? Bien souvent, c'est au moment où on est face à l'attaque, on se dit, tiens, il faudrait que je lise ma Bible, tiens, il faudrait que je prie, tiens, il faudrait que je sois avec le Seigneur. Et c'est trop tard. C'est bien souvent trop tard. Heureusement que Dieu est plein de miséricorde. Hein. Il nous donnera des forces pour aller plus loin. Mais c'est avant que ça se prépare. Et là, il y avait une stratégie de la part de Dieu pour le peuple d'Israël. Stratégie qui va travailler sur deux terrains. Il y a deux terrains de bataille là, avec Amalek. D'abord, il y a le terrain physique. Là où va se passer le combat. C'est Josué qui a appelé à la bataille. C'est pas Moïse. Pourquoi? Parce que Dieu en a décidé comme cela. Et déjà là, on peut se dire que si Dieu décide certaines choses dans le combat, on pourrait dire il faut respecter aussi. Hein. Josué aurait pu très bien dire à Moïse, écoute, pourquoi tu m'envoies combattre? C'est toi le chef, hein. Vas-y mon gars, hein. C'est toi le plus fort. Mais qu'est-ce qu'il a fait Josué? Il a obéi tout simplement. Et c'est très bien qu'il l'ait fait. Mais en même temps, Josué avait besoin d'un soutien spirituel. Parce que souvent on veut aller attaquer tout seul, mais on oublie qu'on a besoin de soutien dans le combat. Énormément de soutien. Et ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est que Josué aurait pu partir tout seul lutter, il était peut-être un très bon chef guerrier, il aurait peut-être pu abattre Amalek, mais Dieu veut que la bataille ne se fasse pas tout seul. Il a mis tout le monde au travail. Selon les compétences des uns et des autres, mais il a mis tout le monde au travail. Dans le combat, je n'ai pas à lutter seul. Je peux utiliser les compétences des uns et des autres. Et puis il y a le terrain spirituel, dans Éphésiens 6, 12, il est dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Et ça, quand je vais au travail le lundi matin, franchement, je n'y pense pas du tout. Enfin, vous y pensez, vous? À tout ce qui se passe dans le monde spirituel, pensez à votre patron, hein, que vous allez voir plutôt. Ou, hein. Mais... c'est une réalité aussi. Et donc, il y a une part de combat dans ce monde spirituel. Et là, sur le terrain, justement, ben, ce combat spirituel, c'est Moïse qui va le mener. Un est sur le terrain, attaque physiquement. Un autre est en train de lutter spirituellement. Et il va aller sur la montagne pour que tout le monde voit Moïse, pour qu'il y ait un point de repère, pour qu'on voit que quelqu'un là est dépendant de Dieu, essaie d'écouter Dieu pour qu'on puisse avoir la victoire dans cette bataille. Et puis il va étendre cette verge, hein, et la verge a tout un symbole là, parce que c'est ce qui a permis d'être sauvé de l'Égypte. Ça représente aussi dans l'Exode la puissance de Dieu. Et en brandissant cette verge, il démontre là que Dieu est là, qu'on va dépendre de Dieu, et en même temps qu'il y a toute la puissance de Dieu qui est là pour aller combattre Amalek. C'est pas rien ce symbole là. Hein, pour nous, une verge, c'est un bâton, mais pour eux, ça voulait dire énormément de choses. Et le Seigneur lui demande d'étendre sa main, et il va lever sa main, puis une autre main, et à tour de rôle. Mais restez maintenant une demi-heure avec les mains levées, juste. Vous voulez essayer avec moi? Juste une main levée, quoi? Vous voulez pas combattre? Vous voulez pas lutter avec moi? Non, je rigole. Mais qui commence. Le sang, hein, qui commence à... Je suis pas un médecin, mais je sais que ça fait mal à un moment. Hein. Ça démontre l'effort qu'il va y avoir dans le combat. C'est juste deux mains levées, mais derrière, ça symbolise tout l'effort qu'il va y avoir dans le combat. Et souvent, parce qu'on voit l'effort, ben on ne va pas lever les mains. On préfère aller se coucher, tellement plus agréable au lit. Mais on voit l'effort de ce combat. Et Dieu leur donne une stratégie là. D'abord, avant de comprendre cette stratégie, c'est comprendre la difficulté du combat. Quand la main est levée, ça représente l'intercession, ça représente la dépendance de Dieu, hein, de Moïse et du peuple. Et on voit que sur le terrain, ça offrait la victoire. Si on se met à prier, si on décide d'intercéder, d'être dépendant de Dieu, le Seigneur nous donnera la victoire. Il a son temps des fois, mais il nous donne la victoire. Et puis quand il baissait ses mains, Moïse, eh ben, à cause de la fatigue, parce que peut-être il luttait seul à ce moment-là dans son combat, eh ben, la victoire était pour Amalek. Tout un symbole, toute une instruction là-dedans. Et en même temps, on voit la durée du combat parce qu'il est dit qu'il a fait ça jusqu'au soir. Alors moi, je vous demande une demi-heure les mains levées, mais faites ça toute la journée. Sans manger, certainement. Jusqu'au soir. Ça démontre aussi que le combat, ce n'est pas quelque chose qui va se faire juste de midi à 14 heures, mais que ça peut être long, endurant. Ça demande de l'endurance. Ce n'est pas évident. Mais Dieu avait cette stratégie et il va demander à Hur et à Aaron. Parce que Moïse avait besoin d'aide à ce moment-là. Il ne pouvait pas y arriver seul. C'était le grand Moïse, c'est bien, mais vous ne pouvez pas y arriver seul. Et ce n'est pas parce qu'on est un super grand chrétien, bien mature, etc., que des fois on n'a pas besoin d'aide les uns et les autres dans certains combats. Et je crois qu'il faudrait même le faire assez régulièrement. Et donc Dieu envoie Hur et Aaron, et Moïse s'entoure en fait dans la difficulté et dans le combat. Mais ça, c'est la stratégie de Dieu. Quand ça ne va pas dans votre vie, arrêtez de lutter tout seul. Vous avez des frères, vous avez des sœurs, des gens en qui vous avez confiance, pas forcément pour tout dire, mais demandez-leur de prier avec vous, de les encourager. Mais Dieu ne veut pas qu'on lutte tout seul. Parce que s'il avait laissé Moïse, et si Moïse avait dit « Ouais, j'ai pas besoin de Hur et Aaron », ils auraient perdu. Simplement. Mais Moïse a accepté aussi l'aide des autres, a accepté de travailler ensemble et de s'entourer dans la difficulté et dans le combat. Dieu démontre ici la nécessité de tout le monde dans le combat. Moi, je serais peut-être l'aide de quelqu'un, mais pas forcément l'aide d'une autre personne. Mais quelqu'un sera l'aide de cette personne. Et je pense qu'on a besoin des uns et des autres, là où on en est avec le Seigneur, pour des fois lutter, combattre ensemble. Chacun a un rôle. Ça, c'est intéressant. Dans l'Église, il n'y a pas qu'un pasteur, hein. Il y a plein de personnes, parce que ça ne sert à rien d'être pasteur, mais il y a plein de personnes qui sont là pour lutter avec moi, lutter avec les autres, s'encourager les uns les autres. Vous êtes tous importants. C'est ce que dit tout simplement ce texte. Et souvent on dit, oh, pff, je suis qui moi dans l'église? Qu'est-ce que je peux apporter dans l'église, hein? Plein de choses. Déjà prier, ce n'est pas rien. Et donc on voit que, d'un côté, les prières de Moïse avec Hur et Aaron, l'effort du peuple sur le terrain avec l'armée, ces deux choses combinées ont donné la victoire. Ce n'est pas une seule chose que prier. Il y avait et lutter sur le temps et lutter spirituellement. Il faut les deux. Parce que des fois, on pourrait dire, « Ah ben, je vais prier pour que je vais avoir la victoire, mais je ne fais rien. » Alors que Dieu me demande des fois de faire quelque chose. Hein. Les deux sont combinés. On ne peut pas lutter que dans un côté. Leçon pour nous, avoir à l'esprit qu'il faut lutter sur ces deux terrains à la fois, autant physique, c'est-à-dire accepter le combat, accepter ce que Dieu me demande de changer peut-être dans ma vie, dans cette chair bien souvent, et en même temps lutter spirituellement, prendre le temps de prier sérieusement, et pas simplement vite fait « Amen, hop, le poste de télé ». Souvent comme ça. Lutter, ça prend du temps. C'est pas parce que vous passez 3 heures à prier que ça vous aurez plus de... C'est pas ça. Il faut être sincère devant Dieu. Il faut être vraiment sincère avec lui. Avoir à l'esprit aussi que nous luttons souvent avec nos forces. Je sais que nous prions peut-être des fois en se disant « c'est... » Mais regardez bien des fois, c'est nous-mêmes qui luttons. Parce que quand on se confie à Dieu, il faut se jeter dans le vide. C'est ça la foi. Hein. Vous avez déjà sauté dans le vide en vous disant que quelqu'un va vous rattraper? Enfin, ne le faites pas, hein. C'est pas ce que je veux dire ce matin, on se rend bien. Mais spirituellement, c'est ça. Là, on est bien d'accord. Hein. On est au bord d'une falaise et ben, le combat est là. Et à un moment, il faut que je lâche tout. Il faut que je lâche prise pour que Dieu puisse travailler dans mon cœur et avec moi. Mais souvent, on refuse cela. Puis comprenons aussi le travail d'équipe. J'aime beaucoup, moi, le travail d'équipe. Besoin de tous, on l'a dit, pour la victoire, grand et petit. C'est pas parce que j'ai 80 ans ou que j'ai 10 ans que je peux me dire à un moment, je suis plus utile dans l'Église. Faux, complètement faux. Tout le monde est utile dans l'Église. Et Dieu, justement, le démontre à travers cette bataille. Et on a besoin aussi de tous pour prier. C'est le lieu de bataille, c'est ces moments de prière. C'est là où on va se battre contre... Ben, beaucoup de choses. Hein. Alors, mais le problème, que souvent, ce moment est déserté. Et on ne prend pas le temps de prier. Je ne parle pas de chez nous, je parle ensemble. Parce que là, ils n'ont pas lutté chacun chez eux. Ils ont lutté tous ensemble, à un moment donné. Et si on ne lutte pas ensemble, après, il y a des échecs. Peut-être dans l'Église, de façon communautaire. Et on se demande pourquoi l'Église s'est divisée? Je ne comprends pas. Ben, on n'a peut-être pas prié. Peut-être qu'on n'a pas pris conscience de ce combat spirituel qui existe. Vous savez, le diable, il est là, hein. Il nous regarde. Hein, et s'il peut nous foutre en l'air, il le fera. Hein. Ça dépend de nous, tout simplement. Ça dépend de l'envie qu'on a de combattre spirituellement et de ne pas déserter justement ces moments de bataille que sont la prière. Alors, il ne s'agit pas d'être toujours présent, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais si je ne suis jamais là, ou si je suis là de temps en temps, je préfère être là de temps en temps, vous comprenez l'idée? Si on peut prendre de temps en temps le désir de venir lutter ensemble dans la prière, pas que l'étude biblique, hein, je parle de la prière, pour justement avoir conscience dans notre tête qu'il y a un combat spirituel. Alors je pense que Dieu va nous donner et des joies et des victoires, et va peut-être même faire grandir encore plus l'Église. Et peut-être dans vos domaines personnels, ben, il y a des choses qui vont aller de mieux en mieux. Mais il faut faire l'effort. Josué n'a pas dit, oh, pff, c'est le week-end, hein, je ne vais pas les combattre. Il a fait l'effort. Moïse n'a pas dit « Ah là là, ça va être dur de lever les mains pendant toute une journée. » Ils ont fait l'effort. Ça fait mal, un effort. Vous aimez les efforts ? Moi, j'aime pas. Hein. Quand j'essaie de faire mon jogging, des fois, je me dis « Il manque que ça doit passer. Hein. » J'aime pas les efforts. Mais pourtant, la bataille, là, a été gagnée parce que des gens ont fait des efforts. Et ça demande beaucoup de nous que faire des efforts. Dans cette deuxième partie, Dieu révèle ici une stratégie de combat. Mais dans cette stratégie, il démontre surtout que Moïse était totalement dépendant de Dieu, et en même temps le peuple au travers de lui. Et non seulement il était dépendant de Dieu, mais Dieu voulait qu'on travaille ensemble, qu'il y ait un soutien fraternel dans cette lutte. Ce que Dieu aurait pu très bien faire, hop, 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 Amalek, tu dégages. Puis Amalek serait parti. On n'aurait pas appris beaucoup de choses là, en fait. Mais il a permis qu'Amalek attaque, qu'ils aient la victoire au bout, pour nous apprendre à nous, bien plus tard, certaines choses dans ce combat que nous pouvons avoir. Puis une troisième chose, voilà, nous avons gagné, nous sommes vainqueurs d'Amalek, et puis on reprend notre vie tranquillement. Qu'aurait pu faire Moïse, hein, allumer la télé, ça n'existait pas à l'époque, mais bon, on se comprend, hein, et puis reprendre sa vie. Mais lui, il s'est arrêté un moment après la victoire, et il était plein de reconnaissance. Moïse est reconnaissant, il va bâtir un autel, et il va nommer cet autel l'Éternel, ma bannière. En faisant cela, il ne reconnaît pas que c'est grâce à ses mains qui étaient levées qu'il a eu la victoire, ou grâce à la stratégie de Josué. Il reconnaît que c'est Dieu qui est son libérateur, que c'est Dieu qui a eu la victoire. Souvent, on oublie ça aussi, hélas. Et en baptisant, on va dire, cet autel, il montre visuellement à tout le monde cette reconnaissance. Alors, n'allez pas me bâtir des autels dans la cour ici, parce que je devrais les enlever, hein, parce que je veux sortir ma voiture. Mais on se comprend. C'est l'idée que... Mais comment on peut être reconnaissant visuellement ? Comme ça, le morceau là. Je suis content. Oui. Ça se voit peut-être sur notre visage, des fois, hein, tout simplement. Ou par un chant, ou peut-être par l'envie de partager une expérience, partager ce que Dieu a fait pour moi, mais ça se voit visuellement, la reconnaissance, normalement. C'est la victoire de Dieu avant tout pour Moïse. Et quand nous avons des victoires dans notre vie, ne dites pas que c'est grâce à moi, parce que j'ai distribué beaucoup de traités, que eh ben, les gens viennent dans l'église. C'est marrant, depuis qu'on a arrêté, il y a de plus en plus de gens qui viennent. Plus rien, moi. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter, on se comprend bien, mais c'est la victoire de Dieu et dans toute notre vie. Et Moïse rappelle les faits, parce qu'on ne peut pas avoir de reconnaissance si on ne s'arrête pas un moment en se disant « je vais regarder ce qui s'est passé ». Et c'est bien dommage qu'on ne s'arrête pas à la fin de la semaine ou même à la fin d'une journée en se disant « qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi aujourd'hui ?» Parce que sinon je n'aurais pas de reconnaissance. On ne peut pas avoir de reconnaissance sans mémoire, sans effort de mémoire. Mais Moïse va le faire. Et il dit, parce que la main a été levée sur le trône de Dieu, c'est-à-dire Amalek, hein, en fait, il dit là, Amalek a défié Dieu, directement. Parce que, en fait, si vous lisez l'Exode, vous verrez que quand Israël commençait à aller dans le désert, tous les peuples autour tremblaient. Ils avaient peur. Parce qu'ils avaient vu la délivrance que Dieu avait accordée à Israël. Mais Amalek, c'est qui ce Dieu-là ? Moi, je vais l'attaquer. Bon, bah, il a attaqué, tant pis pour lui. Hein. Il a tout perdu. Mais parce que la main a été levée sur le trône de Dieu. Au fond, des fois, en tant qu'enfant de Dieu, quand je me fais attaquer peut-être par le monde, ou je ne sais pas, Dieu voit aussi. Alors on se dit des fois, mais combien de temps il va faire pour me délivrer, hein, parce que ça peut durer. Mais souvenons-nous que Dieu voit, et il n'aime pas quand on est attaqué. Mais des fois, on a besoin pour apprendre aussi à grandir. Mais Dieu le voit. Et Amalek, en attaquant Israël, a attaqué Dieu directement. Il ne faut pas le faire. Mais le monde le fait tout le temps, ça, attaquer Dieu frontalement. On l'a vu tout à l'heure dans le psaume, hein, c'est pas Dieu qui a créé le monde, c'est la science, etc. Et tout le temps. Et pour notre prochain président, j'imagine qu'il va pas compter sur Dieu, il va compter sur ses forces. C'est bien dommage. On prie pour qu'un jour, il rencontre le Seigneur. Et Moïse va annoncer la sentence sur l'ennemi dans Deutéronome 25, 19, et on voit en Nombre 24, 20, je vais le lire, hein, ces deux textes qui sont un peu parallèles. Dans Deutéronome 25, il dit « Lorsque l'Éternel, ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage et en propriété, tu effaceras la mémoire d'Amalek du dessus les cieux, ne l'oublie point. » Il y a un jugement qui est rendu là sur Amalek. Puis dans Nombre 24, 20, il est dit « Balaam vit Amalek, il prononça son oracle et dit « Amalek est la première des nations, mais un jour, il sera détruit. » Donc non seulement au moment où Moïse était reconnaissant, Dieu lui avait dit qu'Amalek va disparaître totalement, les Amalécites, hein, mais là, il y a d'autres prophéties aussi dans la Bible qui vont démontrer que Dieu va faire maintenant la guerre à Amalek, parce qu'il l'a attaqué. Et quand Dieu dit quelque chose, il le fait. Et donc Amalek sera détruit, et on pense que c'est avec Saül qui va écraser ce peuple une fois pour toutes. Et si le monde lutte contre Dieu aujourd'hui et croit avoir une victoire pour l'instant, parce que Dieu n'existe pas, mais un jour, c'est Dieu qui aura la victoire contre ce monde, avec toutes leurs armées, avec toutes leurs forces, industries et que je ne sais pas quoi. Dieu a déjà la victoire, en fait, sur ce monde-là. Et Amalek, la fin d'Amalek nous rappelle tout simplement aussi la fin du péché, la fin de Satan. Parce que si on est attaqué, si notre péché est là, tout ça, c'est juste pour un temps. C'est ça qui est formidable, c'est juste pour un temps. Et à un moment, tout ça va disparaître. Alors, la terre, on l'a parlé tout à l'heure, hein, dans la Bible, elle sera détruite aussi, mais Satan sera jeté pour toujours, pour l'éternité, dans les temps de feu. Nous n'aurons plus de péché, finalement. On a à lutter juste quelques temps encore. Ça va, hein ? C'est mieux que de lutter une éternité, on va dire. Donc, ça mérite de faire l'effort, ça mérite de penser à toutes ces choses aussi. Pour nous, après la victoire, après quelle que soit la victoire, je ne parle pas des victoires où on est délivré du cancer, où c'est bien, mais une journée passée, c'est déjà une victoire, non, je crois. Non, je ne sais pas si vos patrons sont sympas, si vos collègues sont toujours très gentils, présentent des fleurs le matin quand vous arrivez avec des chocolats, je ne sais pas, non. Ou les collègues, ou la famille, des fois. Chaque journée, pour moi, c'est une victoire. Si on y arrive, enfin, vous y arrivez, on se comprend. Et je pense qu'après chaque victoire, grande ou petite, selon nos yeux, ben, il faut prendre le temps d'être reconnaissant et de dire merci au Seigneur. Tout en restant sur nos gardes, parce que on l'a vu, si on est plus vigilant, on devient faible et on se fait attaquer par tout ce qui existe dans ce monde. Et en même temps, la leçon pour nous, c'est que Dieu a déjà vaincu l'ennemi. Si le diable s'amuse à vouloir nous attaquer, bon, ça dépend de nous aussi, mais en même temps, on doit se dire que Dieu a déjà la victoire sur lui. Et s'il vous fait tomber, s'il vous fait chuter, le Seigneur permet de demander pardon, d'être rétabli et d'avancer de nouveau avec lui. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui culpabilisent sur leurs anciens péchés, sur les péchés qu'ils vivent. Oui, Dieu n'est pas content du péché, mais à un moment, on peut plier le genou, demander pardon, et dans 1 Jean 1,9, il dit « Il est fidèle et juste pour me les pardonner ». Le diable va susurrer « Non, 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 non ». Dieu dit « Si ». Qui je vais croire ? Souvent, on croit au diable, hélas. Mais il faut croire en Dieu, parce que lui a la victoire sur tout cela. Et donc, nous pouvons nous réjouir, non ? Vous êtes heureux de connaître Dieu ? Heureux d'avoir des combats dans votre vie ? Pas heureux du combat, mais heureux de savoir où on va. Hein ? Savoir qu'on a la victoire, et sur cette terre, mais aussi dans la finalité, on pourrait dire, de ce combat spirituel global. Ça ne peut que nous réjouir. Et peut-être, des fois, on a des envies de vengeance, hein, quand on est attaqué, frère, la famille, je ne sais pas quoi. Laissez tomber, hein. Dieu dit « à moi la vengeance ». Vouloir se venger, vouloir essayer de régler les choses par soi-même, ça rend amer, hélas. Laissez faire Dieu. Lui, il s'occupera mieux des autres. Et s'il ne fait rien, parce que nous, quand des fois, on se dit « on va laisser Dieu occuper », on imagine qu'il y a un gros marteau qui va tomber sur la personne, hein, qui vous embête. Des fois, il ne fait rien, Dieu. À lui la vengeance, il sait ce qu'il est en train de faire, c'est pas à moi d'aller lui dire comment faire. Donc réjouissons-nous, soyons reconnaissants des victoires que Christ nous donne. Pour terminer, on l'a dit, on a beaucoup de batailles à mener dans notre vie, c'est une réalité et il faut en prendre conscience. On va se dire, ouais, c'est dimanche matin, c'est vraiment quelque chose qui va nous arriver dans notre vie. Il faut pas être paranoïaque non plus. Mais Dieu s'est plu à laisser cet exemple dans la Bible de cet Israël qui est attaqué par Amalek. Il ne l'a pas fait par hasard. Hein. La parole est inspirée et Dieu a laissé là pour que ça nous apprenne quelque chose dans notre vie. Et il nous laisse là une stratégie. Il y en a plein d'autres, évidemment, mais une stratégie globale, en fait, dans la lutte, dans le combat que nous allons devoir mener. On l'a vu, le combat se mène sur la terre. Je dois être présent, je dois être prêt à répondre oui quand le Seigneur m'enrôle, on pourrait dire. Mais en même temps, il y a un combat qui est spirituel. Je dois apprendre à être totalement dépendant de Dieu, à lui accrocher la main. Ce qui est souvent bien difficile à faire, mais à saisir la main de Dieu, hein, quelque part, et à marcher avec lui. Et en plus, de vous inclure tous dans le combat. De pas, hein, vous pourrez me dire, ah ben voilà, moi je vais combattre seul, mais je prends la main de Dieu. Mais Dieu dit, non, non, il y a les autres aussi que tu dois emmener avec toi. Et quand on prie, on lutte tous ensemble. Hein, ce n'est pas une personne, je pourrais prier tout seul ici, mais ça ne m'intéresse pas. Mais c'est là, on me demande de prier ensemble, pour que nous luttions tous ensemble. Le combat, donc, se mène sur terre et aussi dans le ciel. Et nous, on l'a dit, nous avons la victoire on a la victoire finale sur le péché, sur le diable qui est déjà vaincu. Alors ne craignons pas, hein, le prochain combat peut-être qui va arriver. Je ne le souhaite pas, évidemment, mais ne le craignons pas. Mais plutôt, apprenons à nous arrêter, nous souvenir de ce passage et nous souvenir que Dieu a une stratégie pour nous en sortir. Et merci Seigneur de nous avoir laissé cet exemple et qui nous aide chacun dans nos combats. Prions. Seigneur, merci pour ce passage de ta parole qui nous montre toute ta stratégie dans le combat. La première chose que nous voulons réaliser, c'est que bien souvent nous sommes derrière, comme ce peuple qui se traîne, Seigneur, qui est fatigué, qui n'arrive pas à avancer avec toi, Seigneur. Et je te prie de renouveler nos forces ce matin, d'avoir le désir d'avoir une vraie relation avec toi, authentique, dans la lecture de ta parole, dans la prière, dans la fréquentation de ton Église. Renouvelle nos forces, Seigneur, pour que nous soyons forts spirituellement. Et Seigneur, même si nous sommes forts, le diable attaquera de toute façon. Et merci pour cette stratégie. Rappelle-nous que nous ne sommes pas seuls. D'abord, tu es présent. Tu es toujours présent et tu sais absolument tout ce qu'il passe dans ma vie, Seigneur. Et quelle joie, Seigneur, et quel privilège aussi. Apprends-moi à saisir ta main, Seigneur, à rester dépendant pleinement de toi. Et apprends-moi aussi, si vraiment ça devient difficile, à saisir la main de mes frères, de mes sœurs, de l'Église, Seigneur, et à prier ensemble, sans forcément tout dire, mais simplement avoir un soutien des uns et des autres, Seigneur. Et merci pour la victoire que tu nous assures. Cette victoire, c'est à la croix que tu l'as atteinte, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Et peut-être que nous ne te connaissons pas encore pleinement ici. Peut-être quelqu'un ne s'est pas encore repenti, n'a pas accepté cette grâce, Seigneur. Et je te prie de travailler son cœur et de le troubler et de voir combien tu l'aimes, combien tu veux qu'il soit ton enfant, Seigneur. Merci aussi pour cette victoire finale que tu as eue à la croix, parce qu'un jour nous serons avec toi pour l'éternité, transformés, sans péché, sans cette chair qui nous embête, Seigneur, héritiers de Christ, Seigneur, et pour l'éternité. Remplis-nous de joie ce matin de savoir tout cela. En Jésus-Christ. Amen.